Il est 8h22.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le secrétaire général de la CFDT. Question-réaction au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Laurent Berger, bonjour.
Bonjour.
Prenons pour commencer quelques indicateurs économiques de la France, là, à l'instant T. La croissance est faible, mais elle se maintient. Le chômage poursuit lentement, mais sûrement, ça décrue. Après la crise des gilets jaunes, du pouvoir d'achat a été redonné aux Français par un certain nombre de mesures qu'on pourrait détailler tout à l'heure. Pourtant, les signes du malaise social se multiplient, Laurent Berger. Il y a des tensions, des mouvements de grève qui durent, comme à l'hôpital, ou qui émergent de manière imprévue, imprévisible, comme ces derniers jours à la SNCF. Comment expliquez-vous ce paradoxe entre ces données économiques que j'ai décrites très rapidement et la crispation d'une partie du corps social ?
Tout simplement parce que les indicateurs qui sont ceux d'une société qui irait bien sont plus adaptés. La simple question de la croissance n'est plus suffisante. C'est-à-dire qu'il faut se donner d'autres indicateurs pour savoir si notre société va bien. Par exemple, la question des personnes qui sont en situation de pauvreté, la question du logement, la question du bien, du pouvoir de vivre, c'est tel qu'on l'avait défini au moment de la crise des gilets jaunes. Et aujourd'hui, on est dans un moment de profonde transformation mondiale, écologique, technologique, et on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Et la seule manière que ce malaise se dissipe, c'est deux choses. S'inscrire résolument dans la transition écologique, parce que ça crée une angoisse chez un nombre croissant de travailleurs, de citoyens. Et deuxièmement, réduire les inégalités, réduire les injustices sociales, parce que ça mine notre pacte social et même notre pacte républicain. Et aujourd'hui, ces investissements-là, notamment dans le projet de loi de finances, etc., pour aller dans ces deux directions, eh bien, on les trouve pas.
Oui, mais tout de même, Laurent Berger, vous dites que la croissance, ça ne suffit pas. Mais c'est un des éléments, la croissance, Nicolas a parlé du pouvoir d'achat, qui remonte, le chômage baisse, le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans. Alors pourquoi ce pessimisme ? Emmanuel Macron a mis 10 milliards d'euros sur la table après la crise des gilets jaunes. Pourquoi est-ce que les Français voient toujours le verre à moitié vide ? Est-ce qu'ils sont ontologiquement insatisfaits ?
Non, enfin, je crois pas. Je pense que on a du mal à recréer du commun. Je crois qu'on vit pas les uns à côté des autres. Il y a certes une croissance de l'individualisation d'une certaine manière. Il y a une crise un peu du moi, c'est-à-dire moi dans la société, comment je me ressens, comment je me vis, etc. Mais collectivement, ils ont besoin d'un sens. On a besoin de savoir ce qui est commun. Et en fait, il faut trois directs. Il faut savoir, ils ont besoin de protection. C'est pas un gros mot, la protection. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, l'eurobaromètre sur le ressenti des citoyens européens, ce qu'ils disent en priorité, c'est qu'on a besoin de protection et notamment de protection sociale. Et on l'apporte comment ? On l'apporte en s'occupant en priorité de ceux qui sont le plus en difficulté, les plus en difficulté qui sont soit au chômage, soit avec des emplois précaires, etc. Et c'est pourquoi je suis très en colère sur l'assurance chômage. Et on l'apporte aussi avec des services publics qui répondent à ce besoin de protection, qui bougent, qui mutent, parce que les choses bougent en termes de besoins, mais avec des services publics dans lesquels on est capable d'investir. Et ça, aujourd'hui, on a le sentiment que tout part. Ce qui n'est pas vraiment...
Ce n'est pas vraiment juste. C'est-à-dire qu'il y a les faits et le ressenti.
Vous savez, j'ai souvent dit que... quelqu'un qui est en situation de dépression, qui est malade, qui a une maladie qui est la dépression, si on lui dit tous les matins, mais regarde, tu vas bien, tes gosses vont bien, t'as du boulot, ça ne change rien. Il faut rediscuter mais c'est quoi en fait ton malaise, il vient d'où et c'est quoi tes aspirations ?
La France est dans cet état-là, état de dépression ?
Je crois qu'en tout cas, collectivement, il y a une forme de pessimisme et de mal-être qui s'exprime, qui est pas toujours... quand on va, moi je vais encore tout à l'heure dans deux entreprises rencontrer les salariés, on ne le sent pas forcément. Dans l'entreprise ou à titre individuel, toujours.
C'est ce que j'allais vous dire. Mais pour pousser même, pour faire un peu l'avocat du diable, est-ce qu'on n'est pas des enfants gâtés par rapport à d'autres situations dans le monde qui sont beaucoup plus dramatiques.
C'est ce que je disais sur la personne en question.
Oui, je sais.
Faut pas dire ça, un dépressif.
Non, je sais bien.
Pour l'éviter.
Poussons le bouchon pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Moi, je suis pas pour dire tout va mal. Il y a plein de situations où ça va bien. La situation économique dans un certain nombre de secteurs, elle est bonne. Et il y a de la redistribution des richesses parce qu'on négocie les salaires, on se bat dans les entreprises. Ce que je dis, c'est si on ne recrée pas du commun, là où on est aujourd'hui, là où on veut aller, c'est-à-dire comment on construit du progrès. C'est ça, nos sociétés, elles sont menées par ça, la recherche de progrès, et notamment pour les gens qui nous entourent, et notamment pour nos enfants. Et là, aujourd'hui, le risque écologique fondamental, on est quand même, les États-Unis viennent de se retirer des accords de Paris, c'est dramatique. Les inégalités sociales, aujourd'hui, par exemple, à partir de 16h47, les femmes travaillent pour rien en moyenne, parce que leurs salaires sont inférieurs à ceux des hommes. Tout ça, ça crée des sentiments.
Ça veut dire quoi, ça, à partir de 16h47?
Eh ben, ça veut dire que les inégalités salariales sont telles dans notre pays que, symboliquement, en termes d'inégalité salariale, les femmes ont fini de percevoir leur salaire sur l'année 2019. Symboliquement, évidemment, je veux inquiéter personne. Ça veut dire que les inégalités sont telles qu'elles minent nos relations sociales, qu'elles minent notre vivre ensemble en société.
Laurent Berger, vous avez eu des mots extrêmement durs sur la réforme de l'assurance chômage, dont le premier volet est appliqué depuis le 1er novembre. Catastrophe sociale, création de trappes à précarité. Vous avez dit à de nombreuses reprises votre colère. Mais personne ne bouge. Pourquoi ?
Parce que dans notre pays, on considère, il y a une majorité de gens sans doute, je ne sais pas le pourcentage, qui doivent considérer que lorsqu'on est au chômage, c'est que finalement on l'a un peu cherché. Je le regrette, j'en suis malade. Moi j'étais conseiller en insertion professionnelle, j'ai vu des gens se battre, faire des efforts surhumains pour essayer de retrouver du travail, etc. Mais je pense qu'il y a une espèce de fond de pensée, en plus il y a c'est vrai qu'il y a des territoires où on recherche des gens, c'est pas forcément les mêmes où il y a les personnes en situation de chômage. Et donc voilà, ça fait pas recette, mais moi je vais vous dire, je me tairai pas sur ce sujet-là, je me tairai pas. Ce qui est en train de se passer, c'est clairement de reléguer des gens dans la pauvreté et de mettre des gens dans des situations personnelles inextricables. Parce que on parle des règles du 1er novembre, c'est-à-dire celles qui vont permettre de rentrer en indemnisation. Tout un tas de gens, notamment des jeunes, vont pas pouvoir rentrer en indemnisation à partir du 1er novembre. Environ 230 000. Mais il y a tous ceux qui, à partir du mois d'avril, vont avoir leur indemnisation parce qu'ils sont salariés précaires. Ce sont des travailleurs, ce ne sont pas que des chômeurs. Ce sont des travailleurs précaires, donc ils sont au chômage et en emploi. Mmh. Ils vont avoir leur indemnisation qui va baisser de 25 à 50% pour certains d'entre eux. Ils vont être dans des situations impossibles à vivre correctement.
Encore un mot, vous avez dit vouloir débattre de cette réforme avec Muriel Pénicaud, qui la porte, mais débattre de quoi ? Dans quel but ? Pour obtenir quoi ? Formidable le débat en démocratie, mais là...
Ah, c'est pas mal quand même le débat en démocratie.
Oui, bah, évidemment.
Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui,
ne pas avoir d'objet.
La réforme, elle est votée, elle est entrée
Elle n'est même pas votée, c'était un décret.
Elle est entrée par décret, mais ça y est, elle s'applique. Donc vous espérez faire quoi encore ?
L'histoire n'a pas de fin sur ces questions-là. On pourrait très bien considérer que cette réforme, elle va s'appliquer tellement durement qu'on pourrait revoir les conditions d'indemnisation à l'avenir. C'est-à-dire qu'il y aura de nouveaux rendez-vous pour discuter des conditions d'indemnisation. Nous, ce qu'on veut, avec Solidarité Nouvelle contre le chômage, avec ATD Quart Monde, avec la FAGE, avec d'autres, on veut montrer ce en quoi ça s'inscrit concrètement dans la vie des gens et comment ils vont le subir. Et moi, si j'ai envie de débattre avec la ministre du Travail, c'est parce que la communication qui est faite aujourd'hui en disant « Regardez, tout va bien, c'est une réforme qui va aider au retour à l'emploi, etc. », c'est faux. C'est d'abord une réforme qui se fait sur le dos des demandeurs d'emploi, avec 3,9 milliards d'économies payées par les demandeurs d'emploi et les travailleurs précaires.
Donc vous espérez encore que le gouvernement puisse revenir sur cette réforme-là ?
Écoutez, quand on est un syndicaliste, des fois, les décrets sont passés. Quand on est un syndicaliste, quand il y a une injustice profonde, on se tait pas. On continue de l'exprimer et on continue de pointer ces inégalités, ces injustices.
Alors, vous disiez à l'instant qu'il y a des secteurs où on recherche des emplois. Effectivement, il y a plusieurs secteurs. Il y a 150 000 emplois qui sont non pourvus, faute de candidats aujourd'hui en France. Et le gouvernement devrait annoncer demain, si on en croit le Parisien, qu'il va annoncer des quotas d'immigration par profession dans les secteurs où il n'y a pas de main-d'œuvre. Est-ce que c'est une bonne chose, des quotas d'immigration par profession, hein, je précise, c'est pas par pays d'origine.
Non, mais je crois pas qu'il y ait besoin de ça. C'est déjà le cas entre nous. Il suffit d'aller dans un certain nombre de restaurants, dans un certain nombre de secteurs. Vous savez, nous, on tient des permanences dans nos unions locales. Des permanences de droit pour les travailleurs. Quand vous faites une permanence spécifiquement sur les métiers du bâtiment, de la restauration, etc., vous apercevez que les personnes qui occupent ces emplois, pour une part non négligeable, sont des personnes issues de l'immigration récente.
Organiser ça au niveau de la loi, c'est-à-dire de dire globalement on accueillera en priorité des mécaniciens, des géomètres, des vétérinaires, qui sont notamment parmi les professions où il manque de gens, il manque de bras.
Non, mais c'est pas ma vision d'une politique politique migratoire. Donc, je vais pas vous dire, vous ne ferez pas dire que je trouve ça pertinent.
Est-ce que vous trouvez ça choquant?
Le débat aujourd'hui sur l'immigration, je le trouve choquant, ouais. Je trouve que remettre le couvert, comme on dit, sur ce sujet-là de la part du gouvernement, c'était pas nécessaire.
Pourquoi? Il n'y a pas de problème migratoire en France?
Vous savez, les migrants économiques, c'est 30 000 personnes en France, par an. Je crois pas qu'il y ait il y a une question d'immigration, de la façon dont on accueille et on accueille les personnes qui arrivent, de la façon dont on met en place le droit d'asile, de la façon dont on permet l'intégration. Mais je crois pas qu'il y a besoin d'agiter les chiffons rouges sur ce sujet-là, comme ça va être fait les jours qui viennent.
Et sur le fait d'instaurer un délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile puissent bénéficier de soins médicaux. Quel est votre sentiment, votre analyse ?
C'est choquant pour le coup, je vous le dis, c'est choquant parce que, vous savez, la possibilité d'avoir accès à des soins pour les demandeurs d'asile, via le dispositif PUMA ou l'AME, c'est deux raisons. C'est d'abord une raison d'humanité, il ne faut peut-être pas qu'on perde ça de vue, et deuxièmement, c'est une raison de santé publique. On aura bonne mine quand on aura mis un délai de carence, qu'une personne sera porteuse d'une maladie et qu'elle aura pendant 3 mois développé cette maladie encore un peu plus et transmis cette maladie. Donc il faut arrêter. Vous savez, l'AME, c'est 0,5% du budget de la sécurité de la santé.
C'est 1 milliard par an, hein,
oui,
pour 300 000 personnes.
Oui, mais 0,5%. Donc au bout d'un moment, et c'est un double devoir. C'est un devoir de santé publique et c'est un devoir d'humanité. Et donc, je le dis, ça sert à montrer qu'on fait quelque chose sur ce sujet-là, ça va avoir des conséquences désastreuses. Et vous savez pour qui ? Pour les personnes concernées, aussi pour les travailleurs sociaux, les bénévoles dans les associations, les personnes qui sont dans les centres de santé, etc. Il va y avoir des conséquences aussi, parce que ils sont bien accueillis. Il y a bien des gens qui se... Et donc, on aurait pu en discuter avec les associations concernées. On aurait pu en discuter avec France Terre d'Asile, on aurait pu en discuter avec la CIMAD, on aurait pu en discuter avec d'autres. Non, ça passe. Et on a l'impression que tous ceux qui consacrent leur temps à l'accueil des personnes en situation des migrants, eh bien, c'est quantité négligeable et finalement, ça compte pas. Heureusement qu'ils sont là, je vous le dis, heureusement qu'ils sont là.
On est au standard, ouvrons le débat avec les auditeurs d'Inter, avec Philippe depuis Nantes. Bonjour Philippe, bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bien, bonjour. Bien, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été largement présenté dans les médias, sur la clause du grand-père, et en particulier... qui semble à destination, si j'ai bien compris, des agents de la SNCF. Alors, Monsieur Berger a parlé tout à l'heure de la notion d'égalité. Si la clause semble légitime, est-ce qu'il est tenable de ne la mettre en place que pour des agents de la SNCF, ou est-ce que cette clause ne doit-elle pas être élargie à un grand nombre d'autres catégories ?
Merci Philippe pour cette question. Laurent Berger vous répond.
D'abord, cette réforme des retraites, elle n'est utile que si elle rapporte de la justice et de la lisibilité. Notre système de retraite par répartition, aujourd'hui, il est miné par deux choses. Un, il y a profondes inégalités. J'ai parlé des femmes tout à l'heure. La retraite moyenne des femmes, en moyenne, c'est 30% en moins que celle des hommes. Si vous avez travaillé un peu dans le public, un peu dans le privé, vous êtes sanctionné. Donc on veut remettre de la justice et de la lisibilité parce que il y a plein de gens qui arrivent en retraite qui savent pas comment ils vont être traités. Ça donne pas tellement confiance dans un système collectif. Et par contre, évidemment, si on met un système universel, même si ça veut pas dire un système uniforme, ça veut dire que ça change un certain nombre de régimes. Quand vous êtes un cheminot, vous avez été embauché, vous avez 40 ans ou 45 ans, on vous a dit voilà, il y a une promesse, il y a un contrat social, vous avez pas des hauts salaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez travailler dans des conditions avec des horaires de nuit, etc. Mais il y aura des conditions, de telles conditions pour le départ en retraite. On lui dit pas au milieu de sa carrière, bah écoute, désolé bonhomme, on peut pas faire autrement, on va changer les règles. Donc il faut des périodes de transition.
La fameuse clause du grand-père, pour expliquer ce que c'est pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une piste qui est sur la table, qui est de dire que la nouvelle réforme s'appliquerait pour la SNCF aux nouveaux entrants.
Mais moi je suis pas forcément favorable à cette formule. Je pense qu'il faut une formule de garantie des droits acquis. Ça veut dire quoi ? Les cheminots, leurs droits acquis, c'est ce qu'ils ont cotisé jusqu'alors et les conditions qui leur sont promises jusqu'à aujourd'hui. Les conditions qui leur sont promises, c'est vrai, il y a des conditions de départ. D'ailleurs, faut arrêter l'idée le cheminot qui part à 50 ans, etc. Hein, je veux dire, de plus en plus, les départs, les dates de départ, les âges de départ sont similaires entre le privé,
etc. Vous entendez
etc.
le Premier ministre répéter ad libitum l'argument de dire qu'un chauffeur de bus à Paris partirait à 55 ans alors que le chauffeur de bus au Havre part à 62 ans. Il a tort ou pas? Non, il a tort ou pas quand il dit ça?
Il a tort sur le fait que quand il veut pointer la responsabilité de certains ou la supposée culpabilité à l'égard d'autres, il a pas tort quand on dit qu'on peut revoir les règles et que la pénibilité qui est vécue par les chauffeurs de bus ou les chauffeurs de transport en commun dans un certain nombre d'endroits, notamment les travailleurs de nuit, elle doit être reconnue pour tous. Mais ce que je veux dire, c'est il faut arrêter cette réforme, il faut arrêter d'opposer les gens les uns aux autres. Mais pas que pour cette réforme entre nous. C'est-à-dire que notre débat public, il se gargarise en permanence de la recherche de coupables, de gens qui seraient responsables de leur situation ou responsables de la situation des autres. C'est-à-dire que, et c'est aussi une des raisons d'une France qui va pas très bien, d'un malaise, etc., c'est en gros, il y en a toujours un qui profiterait sur mon dos. C'est pas ça la réalité. C'est pas ça la réalité. Par contre, ça veut pas dire qu'on peut pas non plus poser les questions d'un système des retraites plus juste, où les inégalités soient moins fortes. La pénibilité pour un travailleur de l'agroalimentaire, qui travaille dans un abattoir, elle doit aussi être reconnue, et aujourd'hui elle n'est pas reconnue.
Et notre auditeur vous posait la question de la clause du grand-père pour tous.
Non, je crois que c'est
qui est une manière de décaler la réforme.
Si cette réforme, on veut une réforme de justice où les basses pensions soient augmentées, où il y a la reconnaissance de la pénibilité, etc. Il n'y a pas de raison de créer un 43e régime en disant voilà, on aura un régime de ceux qui vont rentrer maintenant. Donc c'est pas ça ce qu'on produit. Mais vous savez, aujourd'hui on ne sait pas où on va. On ne sait pas vraiment où cette réforme va aboutir. Soit on fait une réforme.
En fait,
vraiment...
vous avez peur qu'il la décale au calendrier grec, c'est ça, si on vous écoute.
Vous savez, la justice, c'est toujours pour plus tard. Et les économies, c'est toujours pour aujourd'hui, dans beaucoup de politiques publiques. Moi, je voudrais de la justice aujourd'hui dans le système des retraites. Parce que faut arrêter. Je combats deux visions. La vision qui consiste à dire, écoutez, une bonne réforme paramétrique, on met toujours tout le monde à 64 ou 65 ans, et puis les choses sont réglées. Ça a été dans des programmes présidentiels des uns et des autres. Et puis, il y a une autre vision qui dit, le système actuel, il est à l'équilibre. S'il est à l'équilibre, c'est qu'on a fait les efforts, notamment la CFDT. Mais il est parfait. Non, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Est-ce qu'on peut parler des inégalités de ceux qui cotisent pendant l'été quand ils travaillent ou pendant quand ils ont des boulots précaires, mais qui ne se créent pas de droits parce qu'ils n'ont pas les heures supplémentaires sur un trimestre? On sait aujourd'hui que dans notre pays, il y a plein de gens qui cotisent, mais qui ne se créent pas de droits à la retraite. Ben moi, je veux remettre en cause ces inégalités. Soit on y arrive très bien, et on verra dans quelles conditions, soit on n'y arrive pas, et dans ce cas, il n'y a pas de sens.
Une question de Patrick pour vous, Laurent Berger. Comment se fait-il qu'on ne vous voit pas le 5 décembre, toujours dans le dossier des retraites, pour cette mobilisation intersyndicale? Pourquoi la CFDT n'y est pas?
Parce que la CFDT, on est dans une phase de concertation, de discussion pour élaborer cette retraite, cette réforme. On essaye de pousser nos revendications. J'ai parlé de la pénibilité, j'ai parlé de la situation des personnes précaires, des basses pensions. Nous, on a une revendication pour aller à 100% du SMIC minimum en termes de retraite, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Eh bien, on veut continuer de discuter. Et lorsque cette réforme sortira en début d'année, je ne sais pas trop quand, on verra si on est d'accord ou pas d'accord. Et à ce moment-là, il sera temps de se mobiliser.
Joss est au standard. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour la France Inter. Merci de prendre ma question. Voilà, je suis syndicaliste également, Monsieur Berger, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui nous sommes démunis pour manifester notre mécontentement face aux différents gouvernements. On l'a vu avec le gouvernement Manuel Valls sur la loi El Khomri, on le voit encore aujourd'hui. On a beau manifester notre mécontentement, on a l'impression de ne pas être entendu. De quels moyens dispose-t-on aujourd'hui, en tant que citoyen, en tant que syndicaliste, pour vraiment faire plier les gouvernements sur les différentes réformes qui visent quand même à saper toutes les protections dont vous parliez, qui visent à saper le service public et je dirais le pacte républicain et le pacte social dont vous parliez.
Quand vous dites moyens, Joss, c'est moyens légaux, conventionnels, c'est ça?
Bah, à moins qu'on tolère la violence sur l'antenne nationalement, mais sinon, voilà.
On a bien compris.
Voilà.
On a bien compris, alors. Merci pour cette question. Mais Laurent Berger.
C'est une question très importante. D'abord, il faut dire, et je crois que c'est sans doute le cas de Joyce, que d'être syndicaliste, c'est aussi agir dans les entreprises tous les jours. Et heureusement qu'il y a des syndicalistes pour le faire. Parce que je voudrais pas donner l'image, je vais répondre à la question, mais que les syndicalistes, c'est seulement d'un niveau national pour aller porter des propositions, etc. Non, tous les jours dans les entreprises, des milliers et des milliers de femmes et d'hommes, quelle que soit leur étiquette syndicale, font un travail extraordinaire pour défendre leurs collègues. Mais vous avez raison, la question qui est posée, c'est quelle nouvelle forme de mobilisation? parce qu'on voit bien que les formes classiques, elles ont parfois pas de résultats. D'abord, moi je crois qu'il faut agir aussi par secteur sur un certain nombre de sujets. On le voit sur l'hôpital aujourd'hui, le 14 novembre, il y aura une journée de mobilisation. On le voit sur EDF, où il y a un projet de séparation au sein de l'entreprise, et les organisations syndicales ensemble se sont mobilisées pour contester ce projet. Il faut regarder, il faut porter des revendications précises. Souvent, quand on fait des grandes mobilisations qui n'ont de grandes que le nom, on est un peu un fourre-tout. Et le fourre-tout, ben, les interlocuteurs, ils prennent ou ils prennent pas, et évidemment, ils prennent pas les propositions. Donc, je pense qu'il faut cibler les revendications. Et puis, une autre, et c'est un des problèmes du syndicalisme parfois, c'est la mobilisation, c'est pas simplement la manifestation de rue, c'est aussi la qualité des propositions qu'on porte. De l'analyse qu'on porte sur la situation et la capacité de porter des propositions. Nous, on a, par exemple, et on demande encore à être écouté sur ce sujet-là, avec 50 organisations, des associations, des ONG, le printemps dernier, dit on veut un pacte du pouvoir de vivre. On veut des mesures contre la pauvreté, pour la transition écologique, pour la répartition des richesses, sur la fiscalité, etc. Et il faut faire ces propositions et trouver les moyens de mobilisation.
Vous n'êtes pas écouté ?
Ça dépend sur quel sujet. Regardez le rapport qu'a sorti Madame El Khomri la semaine dernière sur le grand âge. Avec la reconnaissance des métiers, la nécessité d'embaucher, de revaloriser les salaires des professionnels, des EHPAD, du maintien à domicile, etc. Eh bien, s'il n'y avait pas eu la mobilisation des salariés des EHPAD, et qu'on n'avait pas poussé, y compris avec ce pacte du pouvoir de vivre, sur la dépendance, on n'aurait sûrement pas eu ce rapport. Ce rapport, et maintenant, il doit avoir des moyens conséquents, et il doit se mettre en place. D'accord ? Mais vous voyez, c'est le syndicalisme, ça ne se résume pas à dire « je ne suis pas content ». C'est aussi la capacité à porter des propositions et à faire en sorte que ces propositions...
Mais notre auditeur vous demandait comment gagner des combats alors que vous en perdez autant. C'était ça la question.
Mais on fait pas qu'en perdre. Je voudrais pas donner l'image.
Vous faites pas qu'en gagner aussi. Parliez de l'assurance chômage tout à l'heure.
Bien sûr.
Là, c'est perdu.
Oui, mais dans des entreprises, dans tout un tas d'entreprises, vous parliez des augmentations du pouvoir d'achat. Ça, c'est pas venu. C'est pas tombé du ciel.
C'est venu de la rue. C'est venu des gilets jaunes. Les 10 milliards qu'il a mis sur la table.
Pas dans toutes les entreprises, vous avez tort. C'est venu de la rue, si vous parlez de l'augmentation de la prime d'activité, ce qui montre que le gouvernement ferait mieux de discuter avec aussi les organisations syndicales, et peut-être qu'il a enfin compris qu'il pouvait pas être lui et le peuple en direct. Mais c'est venu aussi les augmentations de pouvoir d'achat dans les négociations dans les entreprises où on se bat pour la répartition des richesses créées. Donc il faut arrêter de considérer que le syndicaliste serait impuissant. Il a beaucoup de choses à bouger en lui-même, mais enfin, il est aussi très utile aujourd'hui aux travailleurs.
Michel, sur l'application France Inter, est toujours sur la question des retraites. Ma retraite devait être calculée sur mes 10 meilleures années. Une réforme et hop, ce sont mes 25 meilleures années qui seront prises en compte. Où est Laurent Berger à ce moment-là ? Cordialement, vous dit Michel. Que lui répondez-vous ?
D'abord, je ne sais pas de quel régime il était pour que ce soit sur les 10 dernières années. Mais dans la réforme en question, ce ne sera même pas forcément un système par points. Ce n'est même pas les 25 meilleures années. C'est je reçois en fonction de ce que j'ai cotisé.
Donc vous lui dites que c'est pire encore que ce qu'il décrit.
Non, mais non, mais non. Mais ça, c'est une vision, M. Domorant, qui est une vision pessimiste pour le coup. Parce que ça dépend comment on compte, combien coûte le point. Et comment on le revalorise et qui décide pour le revaloriser. C'est-à-dire que si on considère que le pays va super bien, que tout est parfait, c'est sûr qu'il faut rien bouger. Si on considère que les acquis sociaux, qui ont été ceux des combats menés par les organisations syndicales, et au fil des années, ça suffit et il y a rien de plus à réinterroger dans un monde qui bouge beaucoup, où les gens bougent beaucoup. Le système des retraites, il a été créé, je vous le dis, pour des gens qui rentraient dans une entreprise et qui en sortaient au moment de la retraite. La réalité, c'est plus celle-là. Donc soit on fait mine de croire que c'est encore celle-là et on se dit que le système est parfait, soit on se pose des questions pour le rendre meilleur. Est-ce qu'on va réussir à le rendre meilleur ? Ça dépend pas que de nous, il y a aussi le gouvernement, il y a aussi d'autres qui devraient faire des propositions aussi et qui parfois les font pas, mais faut arrêter de croire que tout...
Qui ? La CGT ?
Non, mais c'est aussi... On n'entend pas beaucoup d'acteurs politiques faire des propositions, si ce n'est des propositions de serrer le kiki en termes d'allongement de la durée...
Vous parlez des dirigeants de gauche, par exemple ?
Non, je parle aussi de la droite. Il y a des gouvernements, il y a des programmes présidentiels qui étaient, et on voit aujourd'hui une propension de certains à dire il faudrait allonger le départ, repousser l'âge de départ.
Donc vous gardez espoir que ça puisse être une réforme de justice ou de progrès social.
Moi, je me bats pour, en tout cas. D'accord. Je me bats pour.
Et c'est pas votre facile. Optimisme, c'est
mais,
ça.
Vous savez, depuis 2003, on en a pris suffisamment dans la figure. Depuis 2003, 1 million de travailleurs. un million de travailleurs sont partis avant l'âge légal de la retraite pour carrière longue. Défendu et obtenu par François Chérec à l'époque. Je vous le dis, beaucoup critiqué. Ces travailleurs, on les entend pas beaucoup. Vous savez pourquoi on les entend pas beaucoup? Parce que c'est des travailleurs de l'agriculture, de la transformation agricole, de l'industrie, etc., des PME. Mmh. On les entend pas beaucoup, mais ils ont gagné. Donc ça, c'était un progrès social et on continue de se battre.
Laurent Berger, merci, secrétaire général de la CFDT. Merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin, 8h47.